Isabelle, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, comme l'a avancé Gail Rubin dans Surveiller et jouir, anthropologie politique du sexe, la variété intrinsèque de la sexualité humaine a été historiquement scindée et départagée en de multiples catégories exclusives et hiérarchiques. De tous les modes d'expression possibles de la sexualité, une seule est considérée comme normale et naturelle. Cette sexualité que l'on dit vertueuse est, entre autres, hétérosexuelle, monogame et encadrée par une relation stable. À ce type restreint d'exploration sexuelle s'oppose la sexualité sadomasochiste, généralement perçue comme déviante, perverse, de même que particulièrement violente envers les femmes. Sa charge misogyne et sexiste, je cite Pat Califia, a par ailleurs été maintes fois dénoncée par certaines théoriciennes féministes. Or, le cloisonnement des diverses pratiques instaurées par le dispositif sexuel dominant, je reprends les mots de Foucault, n'est pas sans conséquence. En plus de stigmatiser les individus s'adonnant à une sexualité autre, la hiérarchisation sexuelle a pour effet de sacraliser la relation hétérosexuelle. Aussi, bien que l'hégémonie de cette dernière soit de plus en plus questionnée, il semble qu'elle demeure encore, le plus souvent, le point aveugle des discours sur la sexualité. Le silence qui entoure la relation hétérosexuelle contribue ainsi à camoufler, voire à rendre invisibles, les rapports de pouvoir qui la traversent. Qu'en est-il du côté des représentations littéraires? L'écriture de l'érotisme ayant longtemps été l'apanage des écrivains, les figurations traditionnelles des pratiques sadomasochistes relèvent en majorité d'un imaginaire androcentré. La mise en récit de la sexualité SM dans la production érotico-littéraire masculine apparaît ainsi le plus souvent reproduire en tout point le script hétérosexuel normatif, lequel attribue aux hommes le statut de sujet dominant et aux femmes celui d'objet sexuel dominé, à cette différence près que le rapport de pouvoir inhérent au scénario canonique hétérosexuel est, dans le cas du SM, rendu explicite par l'auteur. Or, explicite ou pas, cette dissymétrie en vertu de laquelle sont façonnées les représentations sexuelles traditionnelles assigne les personnages féminins à la passivité. Soumises au désir masculin, elles ne sont ni plus ni moins qu'un marchepied, un faire-valoir de la puissance virile. S'appropriant depuis peu le discours sur la sexualité, les écrivaines sont de plus en plus nombreuses à mettre en scène à leur tour les pratiques SM. Aussi peut-on se demander si la prise de parole subjective des femmes permet de reconfigurer les scripts dominants qui régissent la sexualité en général et la relation SM en particulier. Est-il possible de concevoir une pratique féministe de la sexualité SM comme le propose Pat Califia dans la fiction au féminin? Je me pencherai ici donc sur le roman « Le bel échange » de Claudine Galéa, publié en 2005, qui fait le récit d'un dressage au plaisir. À travers une expérience limite de la sexualité, la narratrice du roman amène une jeune femme, Pauline, à reconnaître ses désirs et à connaître ses préférences sexuelles. Connaître, en deux mots, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit bien là de la naissance conjointe de deux sujets sexuels affirmés. Suivant la pensée de Rubin et de Califia, l'auteur pose ainsi la sexualité SM comme une théâtralisation de la domination consentie, où le corps brutalisé fait partie de la mise en scène et où le sujet dominé en tire du plaisir. Parallèlement à cet échange, sans doute celui évoqué dans le titre, sont exposées les relations hétérosexuelles de la narratrice avec divers partenaires. Or, au cœur de celle-ci, elle semble irrémédiablement prisonnière de la position objectale. La connaissance sexuelle conserve dès lors son sens premier, biblique, le corps d'une femme est possédé par un homme. Je m'appliquerai à mettre en évidence le renversement idéologique opéré par l'auteur, qui choisit de légitimer une pratique stigmatisée, tout en révélant les travers d'une conduite hégémonique. Par quelle stratégie discursive l'auteur parvient-elle à opérer cette déconstruction normative? La dyade féminine SM permet-elle de réécrire la sémiotique traditionnelle de la rencontre sexuelle? Et de quelle façon s'articule le passage des deux personnages féminins du statut d'objet sexuel à celui de sujet de leur sexualité? Ce sont les questions que j'explorerai plus avant dans cette communication. Je prendrai appui sur divers travaux d'objectivation des pratiques sexuelles et des identités sexuées dans la théorie des scripts sexuels de John Gagnon et William Simon. Selon celle-ci, les représentations culturelles et les discours qui circulent dans la sphère sociale offrent, voire prescrivent, des comportements, de même que des pratiques sexuelles que nous sommes ensuite amenés à rejouer dans la sphère privée. Faisant partie intégrante du dispositif de la sexualité tel que théorisé par Foucault, ces scripts sont incorporés sur le plan intrapsychique où ils sont réaménagés par les individus, selon la subjectivité qu'il ou elle possède ou qu'il ou elle s'octroie, les fantasmes ainsi créés orientant par la suite les interactions concrètes entre les partenaires. De la même façon que nous performons le genre qui nous a été attribué selon le sexe, nous jouons, au sens théâtral du terme, le rapport sexuel. Ce dernier se présente comme une performance, au sens butlérien, qui nécessite l'investissement d'un rôle spécifique, rôle fondé sur l'appartenance sexuée dans le cas des relations hétérosexuelles et sur une polarisation explicite dominant ou dominante dominée dans la relation SM. Je me pencherai dans un premier temps sur le traitement différentiel réservé au corps féminin en fonction du type de rapport sexuel, donc SM ou hétérosexuel, appelons-le hétérosexuel normatif. Dans un deuxième temps, je m'attarderai plus spécifiquement à l'apprentissage présenté comme une transmission de connaissances d'une femme à une autre à travers la sexualité SM. Et enfin, j'explorerai le passage des personnages féminins du statut d'objet sexuel à celui de sujet désirant. Commençons par l'analyse de la mise en opposition dans le roman de la relation SM et des rapports hétérosexuels entretenus par la narratrice. Vers la fin du récit, cette dernière semble offrir au lecteur ou à la lectrice la principale clé de lecture. Je cite, « Dans la relation pornographique, une femme est possédée par un homme, la femelle par le mâle, le sexe féminin par le sexe masculin. Le mot pornographie a une image, un homme qui baise une femme comme une putain. Dans la relation SM, il y a des règles, les lieux et les temps sont mesurés, la souffrance est contrôlée. Un contrat est passé. Il n'y a pas de règles à la pornographie. Dans la relation SM, le jeu des corps est librement consenti. » Ce passage livre ce qui semble être le projet d'écriture de l'auteur. Accorder à la sexualité SM une légitimité lui étant d'ordinaire refusée en insistant sur le consentement des deux partenaires, processus de reconnaissance symbolique soutenu par la comparaison avec l'appareil pornographique. Pourtant, à première vue, rien dans ce roman n'est explicitement pornographique. Derrière la description pour le moins froide et distante des rapports sexuels, nulle intention de la part de l'auteur d'émoustiller le lecteur ou la lectrice. Nulle représentation de l'échange prostitutionnel telle que le suggère l'étymologie du terme pornographie. Mais une dynamique hétéronormative, pourtant, qui expose clairement les rouages de l'échange économico-sexuel, pour reprendre les mots de Paola Tabet, y est bien présente et appuyée par le dispositif narratif. En territoire patriarcal, je cite, « Toute femme est marquée des stigmates de la prostitution », écrit Pierre Guiraud en 1978. Au sein des scripts sexuels canoniques relayés dans le social, les femmes sont objets de consommation sexuelle. En cela, les relations hétérosexuelles de la narratrice peuvent être saisies, selon la démarche que poursuit l'auteur, comme reproduisant les scripts pornographiques. En témoigne la sémiotique employée pour décrire les rencontres sexuelles entre la narratrice et ses divers partenaires masculins. Je cite, « Ils ne me font plus rien. Ils me prennent, me tournent, me retournent, m'arrachent des soubresauts de volupté, me font jouir, provoquent un orgasme, plusieurs. Le sexe masculin, bite, queue, couille, gland, nœud, vie, m'est étranger. Ce qui me baise est étranger. » Ce passage reprend à la lettre la rhétorique traditionnelle de la sexualité qui exprime une action faite par un agent masculin sur un patient féminin, pour reprendre les termes de Guiraud. Le corps féminin, inerte, est l'objet sur lequel s'exerce l'action sexuelle. L'énumération des verbes évoque par ailleurs la rapidité de l'acte, qui ne semble être entamé que pour en finir, et traduit la violence, physique et symbolique, exercée sur la narratrice. Son plaisir est mécanique, ses orgasmes sont arrachés. À aucun moment n'apparaît-elle participer à l'événement dont son corps est pourtant le centre. Elle est une poupée entre les mains des hommes qui la prennent, un pantin dont la bouche fait résonner l'écho de la jouissance masculine. Pas de doute, nous sommes bien là dans un script interpersonnel calqué sur la dynamique pornographique où le corps du personnage féminin se trouve réifié au profit du plaisir masculin. Les rapports SM entre la narratrice et Pauline sont d'un tout autre ordre. Entre elles, un contrat est passé. Dès leur première rencontre, la narratrice expose à la jeune femme tous les actes qui composeront son dressage, s'assurant par le fait même qu'elle les désire. Je cite, « Vous serez enculée, Pauline. Oui, vous serez écartée, fouillée, prise, reprise par tous vos trous. Oui, vous serez giflée, vous sucerez des queues. Vos seins seront malmenés. Vous aurez mal, Pauline. Oui, vous pleurez. Vous demanderez qu'on arrête. On n'arrêtera pas. Vous supplierez, vous serez marquée. Au fouet, mais pas seulement. Marquée, Pauline, vous serez conduite dans des lieux publics et souillée. Oui ou non, Pauline? Oui. Vous le voulez? Répondez. Oui. Mieux que ça? Oui. Vous voulez vous ouvrir, vous offrir, vous exhiber, vous voulez, Pauline? Oui. Dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Plus fort, Pauline, si vous avez peur, ce n'est pas la peine d'être là. Vous avez peur, Pauline? Non. Bien, Pauline, vendredi, même heure, même endroit. Je le veux, je le veux, je le veux. À l'inverse des relations hétérosexuelles vécues en parallèle par la narratrice, la brutalisation du corps féminin au sein de la relation SM est prévue, désirée, balisée et consentie, ce dont témoignent les nombreuses répétitions. La narratrice ouvre un espace de dialogue permettant à chacune de connaître les limites et les implications du rôle qu'elle endossera. Les rôles étant distribués, la quête de plaisir peut ensuite débuter. Je, c'est-à-dire la narratrice, je l'attache en croix au montant du lit bien écartelé, qu'elle ne puisse pas bouger. Elle comprend ce que je vais faire, gémit. Elle est excitée, elle passe sa langue sur ses lèvres, respire fort. Je prends mon temps, espaçant les coups pour la surprendre. Je veux que ce soit long et délicieux. Incarnant la figure sadique, la narratrice n'en demeure pas moins attentive aux signaux corporels émis par Pauline, ce dont rend compte l'alternance entre les pronoms « je » et « elle ». Contrairement à la précipitation qui caractérise les aventures de la narratrice, l'acte sexuel se déroule ici au ralenti, ce qui permet à la narratrice d'observer les réactions de sa partenaire pour éventuellement s'y adapter. Quittant chaque mouvement qui anime le corps de Pauline, elle laisse tout le temps nécessaire au déploiement du désir de celle-ci. Les liens se relâchent un peu. Elle tire dessus lorsque le coup atteint ses fesses, ses cuisses. Elle se tord, se cambre, se soulève. Elle cherche la douleur. Je laisse de longues minutes s'écouler. Elle reprend son souffle, s'impatiente, puis attend, passive, offerte. Dans la relation SM, la position dominée est investie en dehors de toute contrainte. La passivité sexuelle y est un plaisir précisément parce qu'elle est délibérée. Dans la relation SM représentée dans le roman de Galea, le corps est un territoire d'exploration des possibles sexuels. Dans les rapports hétérosexuels de la narratrice, le corps féminin est un territoire conquis, colonisé, pour reprendre l'expression de Catherine Rousseau, colonisé donc par l'autre masculin. Observons maintenant d'un peu plus près la dynamique unissant les deux partenaires féminins dans leur recherche de plaisir. Selon Pat Califia, je cite, « Le maître mot pour bien comprendre le SM est « fantasme ». Le rapport SM, comme toute autre forme de rapport sexuel, nécessite une mise en scène, laquelle fait intervenir un langage et des codes spécifiques. Dans le cas du SM, toutefois, la mise en scène est assumée. En témoignent notamment les accessoires, les costumes et les fétiches divers qui y sont fréquemment associés. Les acteurs et les actrices qui y participent ont une conscience aiguë du rôle qu'ils et elles jouent. Le départage des rôles implique donc une négociation préliminaire qui en appelle forcément à l'énonciation des fantasmes de chacun et de chacune. Ainsi, avant d'entreprendre le dressage de Pauline, la narratrice lui fait prononcer à haute voix ses désirs. Je demande à Pauline de faire une énumération, ce qu'elle préfère. Je l'enregistre. Dans la chambre, debout, nue, fardée, bien droite, je lui fais écouter sa voix qui récite. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. L'énonciation du fantasme ne sert pas seulement ici à le faire connaître à l'autre. Il semble conduire avant tout à la connaissance de soi-même, alors que Pauline est amenée à se familiariser avec sa propre parole désirante par le biais de l'enregistrement. Sondant son imaginaire érotique, elle énumère ses préférences sexuelles. Je cite encore. De préférence nue, les cuisses écartées. De préférence les mains attachées au-dessus de la tête, les cuisses ouvertes. De préférence les reins creusés, offertes. De préférence ligotés au patère, des patères en fer forgé parfaitement utiles pour y attacher des poignets et présenter un corps nu exposé. De préférence la nuque ployée. De préférence ouverte et nue, ne faisant rien, n'attendant rien, ne voulant rien. De préférence attachée. De préférence silencieuse, attentive aux ordres. De préférence les yeux fermés par un bandeau. L'énonciation des fantasmes contribue ainsi à l'affirmation de la jeune femme comme sujet désirant. Or, selon la psychanalyste féministe Jessica Benjamin, l'affirmation de l'un ou de l'une comme sujet nécessite la reconnaissance de l'autre. Et c'est bien ce que fait la narratrice. La reconnaissance qu'elle lui offre est perceptible d'emblée dans cette volonté de connaître les préférences de Pauline. En d'autres mots, la narratrice n'impose pas, elle s'informe. Qui plus est, elle accompagne la jeune femme dans cette découverte d'elle-même. Je cite, « Nous la voyons être ce qu'elle dit. » Fin de citation. Ce « nous » inséré dans la trame narrative témoigne de la réciprocité qui caractérise la relation entre les deux femmes. Elles apprennent à se connaître mutuellement, à connaître, en deux mots, ensemble. La voix de Pauline se superpose au corps objet de désir et le transfigure. Je cite, « Son corps reconnaît ce qu'elle dit. Je regarde Pauline, je ne vois plus Pauline. Je vois le corps de ce qui est dit avec la voix. » Fin de citation. La voix de Pauline oriente ainsi la saisie qui est faite de son corps par la narratrice. Cette dernière perçoit conséquemment le corps de la jeune femme dans toute sa complexité, c'est-à-dire tel qu'il est redéfini par l'émission d'une parole désirante. Comme nous l'avons vu dans un précédent extrait, les fantasmes de la jeune femme sont entendus par la narratrice, qui s'applique ensuite à les reproduire. Tout cela rend compte de la reconnaissance intersubjective qui anime la relation entre les deux femmes, nécessaire au passage du statut d'objet sexuel à celui de sujet désirant. Dans les scripts canoniques du désir et de la sexualité, les femmes sont des reflets dans un œil d'homme, selon la formule de Nancy Houston. En d'autres mots, leur valeur est socialement déterminée par leur degré de désirabilité sexuelle. Très jeunes, les filles apprennent les contours de ce rôle qui leur est assigné dans l'économie du désir, celui d'incarner un objet désirable et disponible pour les hommes. La narratrice, en comparant son corps vieillissant à celui de la jeune Pauline, évoque cette sentence sociale imposée aux filles dès la puberté. Je cite, « On voit la chair, on voit qu'on est la chair. On voit qu'on est la chair à prendre. On voit qu'on est belle à baiser. » Fin de citation. Le corps des femmes, la chair évoquée par la narratrice, sature le paysage culturel. Partout présentes, mais pourtant le plus souvent anonymes, les femmes personnifient le désir tout entier, elles en sont le référent absolu. Dans le roman de Galéa, il apparaît cependant que le rapport SM permet au personnage féminin de se libérer de ce corps matière modelé par le désir masculin, momentanément du moins. Dans un premier temps, voyons de quelle façon est montrée la transformation de Pauline sur le plan de sa subjectivité sexuelle. À trois reprises, à des endroits différents du roman, la narratrice nous présente la jeune femme, ajoutant chaque fois un complément à sa description. Je cite, « Elle s'appelle Pauline. Elle est très jeune, elle est belle, bandante. » C'est au début du roman. Vers le milieu, « Elle s'appelle Pauline, elle est très jeune, elle est belle, bandante, elle est gaie, elle est tendre. » Et ensuite, « Elle s'appelle Pauline, elle est très jeune, elle est belle, bandante, elle est tendre, elle est entière, elle est sensuelle, elle est curieuse, elle veut connaître, essayer, sentir, elle veut tout. » À mesure que se succèdent les rencontres entre les deux femmes, Pauline passe ainsi du statut d'objet regardé, belle, bandante, à celui de sujet désirant. Elle devient curieuse, elle veut connaître, essayer, sentir, elle veut tout. Statut que lui reconnaît la narratrice. Et regardons dans un deuxième temps les changements qu'induit la relation SM chez cette dernière, chez la narratrice, et en particulier le rôle dominant qu'elle y performe au sein de ses relations avec divers partenaires masculins. À partir du moment où commence le dressage de Pauline, le déroulement des rencontres sexuelles de la narratrice se modifie. Les positions homme-sujet désirant, femme-objet désiré s'inversent. Après avoir rencontré un homme au hasard dans une salle de cinéma, la narratrice décide de l'emmener chez elle. La première, elle prend la parole pour exprimer ses envies. Je cite, « Puis je répète, en le regardant bien en face, qu'on peut, s'il en a envie, passer la nuit ensemble. » Fin de citation. Les rôles ainsi renversés, la sémiologie employée pour décrire le rapport sexuel change radicalement. Je cite, c'est des passages pris à différents endroits. « Je m'approche les seins nus et de mes lèvres, je ferme ses lèvres. » Je le regarde se déshabiller, j'avance la main vers son sexe, il recule, j'enveloppe sa queue, il me laisse faire. La narratrice pose tous les premiers gestes. Elle est désirante et l'expose sans pudeur. Or, l'homme se montre décontenancé par l'assurance sexuelle qu'elle affiche. Tout se passe comme si ce dernier, voyant la place qui lui revient d'autorité dans l'ordre symbolique, être menacé par l'autonomie de la narratrice, était amené à réaffirmer sa puissance. Je cite, « Il m'écarte brutalement. » Tu veux des insultes, des coups, des mots obscènes? » Fin de citation. Toute la violence engendrée par la négation systémique du désir féminin semble être canalisée dans cette réponse brutale. La volonté de la narratrice d'instaurer entre eux un espace où peuvent se déployer conjointement les désirs de chacun et de chacune se bute au refus de l'homme d'envisager sa partenaire comme un sujet à part entière. Aussi la traitera-t-il de folle et la quittera-t-il brusquement en ajoutant avant de partir qu'elle est vraiment dingue? En filigrane se dessine ainsi un rappel à l'ordre du genre, destiné à réassigner par le biais de l'injure la narratrice à la position objectale. Si la subjectivité sexuelle de cette dernière n'est pas reconnue par son partenaire, il semble néanmoins que la dynamique intersubjective instaurée dans sa relation avec Pauline lui ait permis de déjouer, dans une certaine mesure, les scripts conventionnels de la sexualité. Au-delà de cet échec de la réciprocité est exposé et, partant, critiqué, l'étouffement de la jouissance des femmes en tant qu'elles y parviennent à titre de sujet autonome. En somme, les relations hétérosexuelles représentées dans Le bel échange de Claudine Galéa reconduisent en tout point les scripts sexuels dominants, qui trouvent leur expression paroxystique dans le dispositif pornographique, levant ainsi le voile, en quelque sorte, sur la violence systémique exercée contre le corps des femmes au sein des figurations traditionnelles de la sexualité. Dans les rapports hétérosexuels mis en scène, le corps féminin est tourné et retourné, approprié, possédé par un homme. Défiant les présupposés normatifs qui saturent nos conceptions de la sexualité, Galéa choisit d'illustrer en parallèle une relation homosexuelle SM basée sur la rencontre de deux sujets. Si le corps féminin y est brutalisé, c'est en réponse à un désir, une volonté exprimée par le personnage ayant librement investi la position de dominer. Faisant valoir la légitimité de cet échange, ce bel échange, l'auteur opère un renversement idéologique certain, nous laissant songer qu'en matière de sexualité, la violence, la vraie, celle qui étouffe et fait souffrir, ne se trouve pas nécessairement là où on l'attend. Voilà.
Merci, Madame, pour cette communication très précise.